Auditeurs et bienvenue dans Encore Heureux. Après le portrait d'Arthur Schopenhauer, empruntons à nouveau les chemins exigeants et passionnants de la philosophie. Aujourd'hui, je partage avec vous trois définitions tirées du dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, dictionnaire paru récemment dans sa troisième édition aux Presses universitaires de France. André Comte-Sponville est un philosophe français né en 1952 à Paris. Il est l'auteur d'une trentaine de livres, dont le Petit traité des grandes vertus, traduit en 24 langues. C'est un philosophe populaire qui participe régulièrement à des émissions de télévision. Vous l'avez certainement déjà vu et surtout entendu. Écoutons-le se présenter lui-même. Il répond au précepteur, dont je vous recommande vivement les vidéos sur YouTube.
André Comte-Sponville, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui?
Écoutez, nous sommes ici pour parler de philosophie, du moins c'est ce que j'espère. Alors quant à me présenter en quelques mots, d'abord je m'appelle André Comte-Sponville, j'ai 69 ans, je suis père de trois enfants qui sont grands, fort heureusement, ce sont de jeunes adultes. Je vis en couple, nous sommes pacsés depuis 33 ans, et donc je suis philosophe. Et là, il faut en dire un petit peu plus, quelle philosophie? Alors j'ai coutume de dire que je peux qualifier mes positions philosophiques en trois mots, je suis matérialiste, rationaliste et humaniste. Et pour préciser un peu plus, je dirais que je suis matérialiste au même sens qu'Épicure, rationaliste au même sens que Spinoza, enfin humaniste au même sens que Montaigne.
J'aime les définitions, dit Comte-Sponville. J'y vois davantage qu'un jeu ou qu'un exercice intellectuel. J'y vois une exigence de la pensée, pour ne pas se perdre dans la forêt des mots et des idées. Parmi les 2267 définitions que contient son dictionnaire philosophique, en voici trois: le respect, la gentillesse et le voyage. Interrogé sur la prochaine équipe qu'il doit affronter, répond à un journaliste. C'est une grande équipe. J'ai beaucoup de respect pour eux. Aïe, aïe, aïe. Il confond le respect et l'estime. Le respect porte sur la dignité. L'estime sur la valeur, individuelle ou collective. Tous les êtres humains étant égaux en droit et en dignité, ils méritent tous le même respect. Tous ne jouent pas aussi bien au football? Il est donc légitime d'estimer davantage, d'un point de vue sportif, les bons footballeurs, voire d'admirer les plus talentueux d'entre eux. Mais cela ne saurait autoriser à manquer de respect aux plus maladroits des footballeurs du dimanche, ni à ceux ou à celles qui n'ont jamais tapé dans un ballon. Le respect est le sentiment en nous de la dignité de quelque chose ou de quelqu'un. On s'est parfois étonné que je n'en fasse pas l'une des grandes vertus de mon petit traité. C'est qu'elle m'a semblé équivoque. Dire de quelqu'un qu'il est respectueux, ce n'est pas toujours souligner l'une de ses vertus. On imagine déjà des courbettes, des complaisances, des hiérarchies, toute la gymnastique de l'intérêt et des grandeurs d'établissement. Car bien des fois, c'est l'irrespect, spécialement face aux puissants, qui serait nécessaire et méritoire. Voyez Diogène ou Brassens. Quant au respect qu'on doit aux plus faibles ou à tous, la politesse, la compassion et la justice en disent l'essentiel. Le devoir de respecter mon prochain, écrit Kant, est compris dans la maxime de ne ravaler aucun autre homme au rang de pur moyen au service de mes fins. C'est l'antidote de l'égoïsme et comme le contrepoids de l'amour, qui incite les humains à se rapprocher les uns des autres, alors que le respect les conduit à maintenir entre eux une certaine distance. J'y vois moins une vertu de plus que la conjonction de plusieurs. Le respect n'en est pas moins nécessaire. Il ne dispense cependant ni d'amour, ni de générosité. Et la réciproque est vraie. L'amour et la générosité, sans respect, ne sauraient nous satisfaire. Ce ne serait que concupiscence ou condescendance.
Qui c'est qui est très gentil ?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant ?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix ?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang ?
Très méchant.
Qui fait des économies ?
Gentillesse. Le contraire de la méchanceté ou de la scélératesse. Être gentil, c'est vouloir du bien aux autres plutôt que du mal. C'est faire preuve de bienveillance, d'empathie, de douceur, de délicatesse. C'est comme une vertu à minima, et pour cela relativement répandue. Les salauds sont l'exception. L'insensibilité n'est pas la règle. Les gentils sont ceux qui prennent plaisir à faire plaisir, souffrent de la souffrance d'autrui, essaient, tant que cela ne leur coûte pas trop, de la réduire ou de la faire disparaître. C'est moins une vertu spécifique que la conjonction de plusieurs. La douceur, la compassion, la tolérance, la miséricorde. On comprend pourquoi la gentillesse paraît moins admirable que la bonté. Il y manque un peu de générosité, d'amour, de courage. Voyez l'abbé Pierre. Dire de lui qu'il était gentil, ce serait trop peu dire. La bonté est une exception, qui relève d'une forme de sainteté. La gentillesse est plus facile, donc moins rare. C'est comme une vertu en creux. Elle se caractérise moins par ce qu'on fait, donner, aider, secourir, que par ce qu'on ne fait pas, prendre, agresser, peiner. Être gentil, c'est être aimable plutôt qu'aimant, agréable plutôt que généreux, plaisant plutôt que juste. Petite vertu, mais précieuse. Seuls les salauds la méprisent. Seuls les saints peuvent s'en passer.
Je suis toujours en partance. Je vis contre le cours de ma vie. S'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Partir, partir. aller chercher fortune. Pour partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant.
Voyage. Tout déplacement d'assez grande amplitude. C'est changer de lieu plutôt que de place, voire de région ou de pays plutôt que de lieu. Parler d'un voyage autour de ma chambre, comme Xavier de Maistre, qui en fit le titre d'un de ses livres, est un évident paradoxe. Voyager suppose qu'on prenne la route, la via, d'où vient voyage. Que cette route soit terrestre, maritime ou de nos jours aérienne. Et qu'on se rende dans quelques lieux au moins relativement éloignés. D'où la fatigue souvent, par le temps et l'inconfort qu'il y faut, et le plaisir, qui est de découverte, d'étonnement, de comparaison, d'exotisme parfois. Montaigne, qui adorait les voyages, leur a consacré quelques-unes de ses plus belles pages. Sur quoi Pascal, toujours méfiant, jette une espèce de soupçon. Curiosité n'est que vanité. Le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. On ne voyagerait pas sur la mer pour ne jamais rien en dire et pour le seul plaisir de voir, sans espérance d'en jamais communiquer. Plusieurs voyageurs, à leur retour, m'ont en effet donné ce sentiment qu'ils n'avaient entrepris leur périple que pour le plaisir, plus tard, d'en discourir. Mais pourquoi leur reprocher une satisfaction fût-elle d'amour-propre qui ne fait de tort à personne ? La plupart des sujets de conversation ne valent pas mieux, et beaucoup valent moins. Plus on va loin, moins on connaît, disait Lao Tse. Peut-être par la superficialité que cela suppose. Ce n'est pas une raison toutefois pour ne voyager qu'autour de sa chambre ou de son bureau. Et Lucrèce disait « À quoi bon changer toujours de lieu, puisqu'on ne peut se fuir soi-même ?» Montaigne répondrait qu'il ne s'agit aucunement de se fuir, mais de prendre plaisir à se trouver ailleurs. Pourquoi pas ? Le désir en décide, plus que la doctrine. Certains, dès qu'ils arrivent quelque part, veulent repartir, aller plus loin, ailleurs. Moi, c'est plutôt l'inverse. Où que j'arrive, si l'endroit n'est pas trop laid, j'ai le fantasme d'y rester définitivement. C'est sans doute que l'espace m'importe moins que le temps. Et le temps moins que l'éternité. Je ne m'en vante pas. Cela aussi est vanité. Mais je n'ai pas non plus à m'en excuser. Les quelques voyages que j'ai faits, a fortiori les croisières, sans me déplaire, ont tendanciellement réduit mon désir de bouger. Que ce soit à Paris ou dans le Moternay, où sont mes deux logis, l'envie me vient de moins en moins de m'en éloigner. Plutôt ici que là-bas. Plutôt contempler qu'excursionner, plutôt méditer que visiter. D'autres penseront l'inverse et c'est très bien ainsi. Bon voyage donc à ceux qui aiment ça. Chers auditeurs, merci. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022, une année au cours de laquelle, restons modestes dans nos ambitions, le respect, la gentillesse et le voyage ne seront pas absents. Si cela ne devait pas se passer comme prévu, je vous invite à lire et à mettre en pratique une des dernières définitions du dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville à la lettre Z, zazen. Zazen, mot japonais signifiant littéralement zen assis. Méditation donc assise, silencieuse et sans objet. Immobilité stricte, respiration consciente. Attention sans jugement, le corps comme une montagne et les idées comme des nuages. À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.